Ah oh bah tiens, c'est la bande originale sur France Inter. Oh,
mais ça tombe tellement bien.
C'est fou, hein, c'est incroyable.
On était à deux doigts de la faire.
Ah ouais.
C'est aujourd'hui.
Mais ouais. C'est là.
C'est tout
sûr. Ok, d'accord, c'est okay. En direct.
Alors,
elle sera là dans
même
un peu moins du. Oui, non, même pas. 56 ouais. Minutes. Allez, à tout à l'heure.
56 minutes, ce sera déjà tard.
Oh ah, mais j'en rêve.
Mais le mardi, elle pinaille.
Il faut y aller,
elle pinaille le mardi.
Ils sont pas prêts. Non,
j'étais, j'étais à deux doigts de lui donner l'antenne à l'heure. C'est incroyable.
C'est fou. Ça n'arrivera jamais.
Je reviens à midi, c'est Laetitia Gaillet. Laurent Voulzy, pas le Laurent Voulzy chanteur, mais Laurent Voulzy auteur.
Le tonton
celui
de
qui
Morgane.
Signe le ah, c'est ton tonton,
bah,
c'est officiel.
Ouais, ouais, j'aimerais bien, j'allais lui demander.
Sympa pour le vrai tonton, il va bien prendre, tiens. Mes cathédrales, il signe chez Stock ce livre qu'il a préparé, travaillé, co-écrit. Je ne sais pas, on va lui demander comment a fonctionné le travail avec Laurent Geoffrin.
Ça se trouve, il n'a pas écrit du tout.
Si, si, je pense qu'il a écrit, mais je ne sais pas quel est l'apport de Laurent Geoffrin. On va en parler dans quelques instants de ces cathédrales. Mais alors, quel blind test ?
Morgane.
Oui, Morgane.
Bruno Pelletier, le temps des cathédrales. J'ai même le nom du gars.
Mais ça va être quoi la suite ?
Ah, si, si.
Toutes les chansons et cathédrales ?
Eh ouais.
Ah, ah, qu'avec cathédrales ?
Bah non, Leïla.
J'en ai une avec cathédrale, une seule.
Ouais, moi j'avais celle-là.
Non, non, une en plus, une en plus.
J'avais que celle-là, je l'ai ratée.
J'en ai une en plus.
Après, tête de Guillermo, tu cherches les titres avec cathédrales ?
Ouais.
Okay, ça va être
tiens, regarde ça, ça, tu sais qui c'est ?
Morgane,
ouais.
C'est Damien 16. Non, pas du tout, c'est Morgane, c'est Madonna. C'est Like a Prayer.
Exact.
Ouh. Ah oui, d'accord, Prayer. Ah, tout chant lexical. Okay.
Arrêtez d'analyser, il faut reconnaître les morceaux. Arrêtez de vous dire.
Soyez spontané. Ouais,
qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du créateur?
Bah ouais, là, Dieu ou toi? Lequel?
Créateur du blind test, on va se calmer.
Je veux même pas savoir.
Pas de la terre.
Dès que tu captes France Inter, Guillermo, tu nous préviens.
Hein. Les yeux.
Oh là là. Il frissonne.
Non, mais c'est pas grave. T'as le seum, quoi. Alors, attention, qui chante ça?
Pascal Obispo?
Non.
Ah si, on connaît ça, on connaît.
On connaît ça.
Leïla, Souchon.
Oui.
Ah, c'est le.
Alain Souchon.
Il n'y a personne.
Alain. Et si en plus il n'y a personne.
J'ai dit Souchon.
Je ne t'appelle pas Guillermo.
Tu t'appelles Guillermo.
Je sais, j'ai
c'est long, Guillermo.
J'ai pas respecté le protocole.
Vois ça avec tes parents. Tu t'appelles Guillermo.
Vois ça avec ton avocat.
Ou ton psy.
Medina,
vois ça avec quelqu'un.
Avec ton prêtre.
Attention, qui chante ça?
Leïla.
Guy, Guy.
Justine.
J'ai dit pas de nom, c'est moi, Pet Shop Boys. C'est moi,
Mais non, non, non. C'est Leïla.
T'as dit Pet Shop Boys, genre?
Bien sûr, à l'instant, j'ai dit It's a Sin, Pet Shop Boys.
En régie, on confirme que c'est Leïla.
Et mets ton casque et arrête d'être agressif.
Tout le monde est contre toi, Guillermo.
Ouais. Et Calimero, ça va deux secondes. Je te le dis.
T'es trop pas en vie.
Je te le dis.
Attention, qui chante ça?
Daniel.
Oui.
Les Rolling Stones.
On a le temps d'entendre les premières notes ou pas?
Bah oui.
Ça surtout, c'est l'intro la plus longue de l'histoire de la planète, mais tellement génial. Please allow me to introduce myself.
Sympathy for the devil. Mais...
Merci.
C'est un pâté pour le défaut. Attention, qui chante ça? Là, vous avez le temps d'écouter l'intro.
Daniel.
Oh. Oui.
Non, c'est Leïla, ça. C'est Leïla, ça.
Vas-y, Leïla.
Non, je sais pas.
Moi, je dis NXS.
Oui, je
oui. Espèce de petit fumier.
Je fais du mais j'accepte.
Oui, j'ai tendu une braille.
T'as donné ton deuxième prénom qui est Oui, je sais.
Donc on en est
Un point pour Daniel, un point pour Guillermo et les filles. Morgane, 2 points. Leïla, 2 points. Tout se joue sur ce titre qui rapporte 3 points.
Daniel.
Guy. J'ai dit Guy en premier.
Il a dit Daniel. Non, je jure. Mets ton casque.
C'est bon.
C'est pas possible.
Il va bouder.
On t'a dit Calimero, pas plus de 2 secondes.
Là, il est mis Calimero.
T'as dit le titre?
Personal Jesus.
Okay.
Si on l'écoutait un peu.
Ouais.
Victoire de Daniel Morat et merci d'accueillir Laurent Voulzy.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Bienvenue Laurent à ce micro, bienvenue pour parler d'un livre et pas d'un album, pour parler de mes cathédrales, de vos cathédrales. Vous racontez beaucoup de choses dans ce livre, d'abord sur les cathédrales, sur les lieux de prière, parce qu'il y a des abbayes, il y a des abbatiales.
Ouais. Abbatiales.
C'est quoi la différence entre une abbaye et abbatiale?
L'abbatiale, c'est l'église d'une abbaye. Il y a une abbaye avec des gens qui habitent dedans, en général c'est des moines.
D'accord.
La partie de l'église, c'est l'abbatiale.
Ça s'appelle l'abbatiale, très bien.
Les collégiales.
On apprend beaucoup de choses sur les constructions, l'architecture, le compagnonnage. On apprend beaucoup de choses sur la manière dont elles ont été construites, déconstruites. Beaucoup ont brûlé, pas que Notre-Dame. On en reparlera tout à l'heure, d'ailleurs, de Notre-Dame avec Olivier de Chalut, qui est notre invité. Mais on apprend sur vous aussi. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé de ces premiers cadeaux de la guitare et le château fort qui vous ont fait aimer et la musique et toute l'histoire médiévale.
Oui. Le premier truc, c'est, oui, les châteaux forts que ma mère m'avait offert et un feuilleton qui passait à la télé qui s'appelait Ivanhoé.
vous prenez des précautions en disant d'ailleurs que cette promenade, cette visite n'est pas forcément religieuse, elle est plus spirituelle que religieuse, elle peut être même agnostique.
Oui. Oui, parce que c'est des lieux qui m'ont toujours attiré, c'est des lieux très très forts, et j'aimerais avoir une révélation, donc je suis attiré par tout, j'ai lu beaucoup de livres sur les religions, sur les mystiques de toutes les religions, et un des gens qui est certainement pas idiot du tout, quoi, donc c'était pas des illuminés, et donc j'aimerais avoir ça, donc je trouve que dans ces lieux-là, On est proche du mystère.
Quoi. Vous n'êtes pas loin quand même, vous dites qu'il y a une présence, même s'il n'y a personne. Ouais.
Oui.
Vous croyez plus aux esprits qu'au Saint-Esprit?
Ah, je pense que oui, enfin oui. L'invisible, oui, je pense qu'il se passe des choses dans l'invisible.
Alors c'est marrant parce que le duo que vous formez avec Laurent Geoffrin, lui, est à chaque fois présenté comme le rationnel.
Ah bah oui.
Le cartésien pragmatique.
Voilà, force tellurique.
Qui est troublé.
Ou quand on parle d'alchimie, d'alchimiste, toutes choses comme ça. Il est toujours un petit peu
C'est formidable parce que moi, ce qui était marrant, c'est qu'il croit que ce qu'il voit, quoi. Mais c'est bien, c'est un homme brillant.
Saint Thomas aussi, oui.
Je l'appelle Saint Thomas, maman.
C'est ça.
Il croit que ce qu'il voit. Et moi, je suis attiré par, évidemment, j'aime bien les millefeuilles, les guitares, la pop musique.
dans cet ordre-là.
Les vieilles voitures. mais aussi.
J'aime bien les millefeuilles, les guitares, les voitures.
Mais en même temps, je suis attiré par, je pense qu'il y a des choses dans l'invisible, quoi. Ouais. Donc avec Laurent, c'est marrant parce que on se heurte comme ça, mais d'une façon sympathique.
Alors pourquoi lui?
Alors, c'est parce que une éditrice, Sylvie, qui travaille chez Stock, m'a entendu un jour parler des cathédrales, il y a quelques années, à la radio, en disant que c'est quelque chose qui m'attirait, qui me passionnait. Et alors, elle m'a appelé, elle m'a dit, Laurent, est-ce que ça vous intéresse? Vous auriez pas envie d'écrire un livre sur les cathédrales? Non.
Ok.
Ça, c'était la première fois. La deuxième fois, 6 mois plus tard, non. Un an plus tard,
elle
non.
Elle rappelle. Elle insiste.
Oui. On l'appelle, on s'est vu, on a déjeuné ensemble.
Vous avez porté plainte pour harcèlement.
Non. Il m'a dit, mais attendez, j'achète des livres sur les cathédrales. J'en ai un qui fait 200 pages sur la cathédrale de Strasbourg. Qu'est-ce que vous voulez que je raconte de plus que ça et tout? Non, mais la façon dont vous en parlez, ça, bon. Bref. Elle m'invite chez elle. Son mari, c'est Laurent Geoffrin. En discutant. Alors on mange, on boit un peu de vin.
Ouais, vous voulez placer Laurent Geoffrin. Voilà.
Non, mais je crois pas que ce soit que ça.
Vous mangez un millefeuille?
Non, non, non. Laurent Geoffrin écrit bien. Et moi, j'aurais pas fait le livre autrement. Et donc, j'ai déjà lu des trucs qu'il a écrits. Et on s'est aperçu qu'on était dans,
oui,
on s'est aperçu qu'on était dans la même école quand on était enfant. Mais on se connaissait pas. Je suis plus vieux que lui. Et donc, lui, moi, je devais être en CM2, lui devait être au cours préparatoire. Mais on a fait les mêmes écoles, le même lycée, dans la même rue. Et ah donc, on s'est aperçu qu'on était des copains d'avant. Alors, on n'a pas parlé de politique, hein. Non. On est juste des copains d'avant à nos gens. Et puis, de fil en aiguille, à la fin du repas, j'ai dit, bon, allez, on fait un essai.
Alors, comment écrire un livre à quatre mains? C'est-à-dire, vous écrivez, il corrige?
Je viens de recevoir un texto de Sylvie, elle demande si vous voulez écrire un livre sur les mille feuilles.
Ouais.
Vous avez entendu à la radio.
Avec Jean-François Piège. est-ce que ce sont des entretiens? Lui, il a écrit ce que vous racontiez? Ou est-ce que vraiment vous avez chacun écrit une part?
Non, on écrit. Oh, c'est difficile à dire. On écrit vraiment chacun une part. Je dirais que Laurent écrit le visible et moi j'écris l'invisible. Non, en gros, pour résumer, je dirais ça, quoi. Donc
chacun restait sur planté entre guillemets.
Oui.
Sur,
mais les deux sont intéressants.
Sur sa position, je suis d'accord. Mais sur
est-ce que l'un déteint sur l'autre à la fin de la participation, la collaboration.
J'ai ramené dans la collégiale de Huy. J'ai ramené Laurent Geoffrin vers l'irrationnel.
Ah voilà. Racontez.
Genre.
Racontez.
Ouais, parce qu'il est pas là pour. Enfin, tu vois, ça devient un petit peu.
Il paraît qu'il se promène en robe de bure.
Il est pas là pour se défendre.
Non, mais pas du tout. Non, c'était juste une histoire de radiesthésie. C'est-à-dire
sur le pendule, ce que vous racontez en livre.
Oui, on a pris rendez-vous avec une dame, Chantal Dery, que j'avais rencontrée le jour où j'avais chanté dans cette basilique, le lendemain où j'étais allé la visiter, cette collégiale plutôt. Et puis alors, cette femme est passionnante et tout, agrégée d'histoire. Et alors, sa spécialité, c'est les courants telluriques. Bon, des trucs qu'il faut.
Et elle sent son pendule.
Et alors, on a pris rendez-vous avec elle, on est retourné avec Laurent. Et là, elle était avec un radiesthésiste, etc. Puis à un moment, le radiesthésiste nous dit, sous la cathédrale, comme beaucoup de cathédrales, il y a une rivière qui coule à 30 mètres de profondeur. La nef suit la cathédrale, elle tourne même comme la rivière.
Elle est dans l'axe de la rivière.
Ah ouais. Oui, et en plus, il y a une légère courbe. Et donc, Chantal Dery me dit, vous croyez qu'ils l'ont pas fait exprès, qu'elle soit pas tout à fait droite? Je sais pas. Ben non, elle suit la rivière. Donc le gars, il avait un espèce d'appareil de rien du tout, deux bâtons comme ça, qu'on tient verticalement, plus un autre qui pivote en haut, mais on ne peut absolument pas le commander. Il nous dit, on va traverser.
Oui, comme un sourcier.
Comme un sourcier. Mais c'est pas la baguette de sourcier. Il en avait aussi une.
D'accord.
Mais il a pris un autre truc. Et alors là, il dit, on va traverser la rivière, vous allez voir, pof. Au milieu de la nef, on marche sur le plat, quoi. Puis hop, sur le coup, les deux bâtons se mettent face, l'un en face de l'autre. Moi, je dis, je peux essayer. Les deux bâtons. Et après, j'appelle Laurent Geoffrin. Je dis, Saint Thomas, est-ce que tu veux essayer? Et Saint Thomas, il a fait les deux bâtons qui faisaient ça. Ça l'a bluffé.
Ça l'a troublé.
Ah oui.
Ça l'a troublé. Il y a beaucoup de choses troublantes dans ces cathédrales. Alors, vous n'avez pas pu toutes les visiter tellement il y en a, mais en tout cas, celles que vous avez visitées, vous les décrivez aussi bien d'une manière extrêmement pragmatique sur l'histoire de leur construction, la raison pour laquelle elles sont là. Vous cherchez l'étymologie du nom, le pourquoi du comment, l'axe, la lumière, les vitraux. Enfin, oui, il y a un travail de dingue. Vous admirez d'ailleurs ce travail qui prend par moments des siècles avant d'être totalement réalisé, sauf une qui a été plus rapide que l'autre, qui a mis que 50 ans à être construite, c'est ça?
Oui.
Qui est en grès.
C'est laquelle qui est alors en grès rose?
Celle qui est en grès rose, qui a été la plus rapide à être construite.
Je suis pas sûr que ce soit Strasbourg. Chartres a été fait relativement rapidement, hein. Ouais, d'un trait comme ça. Pour ça, elle est très très homogène, la cathédrale de Chartres.
C'est peut-être Chartres, qui a été la plus rapide. Ouais. Mais... Et vous dites d'ailleurs qu'il n'y a qu'un style architectural, tellement ça a été rapide, alors que les autres sont souvent
des styles rajoutés. Ça part des fois, il y a des cathédrales, elles sont... Alors, j'en ai vu beaucoup, hein, parce que j'ai chanté 165 fois dans des églises comme ça, qui sont cathédrales, abbatiales, etc. Là, on a choisi 14, pour commencer. Parce que c'est celle-là me touche particulièrement, mais il y en a d'autres que je trouve extraordinaires. Hein.
Vous laissez d'ailleurs la porte ouverte à un tome 2, ouais, c'est ça.
Que c'est tellement extraordinaire. Je les aime toutes, elles sont toutes extraordinaires et toutes mystérieuses, vraiment.
Alors, une qui n'est pas mystérieuse, parce qu'elle ne cache pas son jeu avec vous, Laurent Voulzy.
Et on l'appelle la cathédrale.
Ah, moi, c'était la flèche. C'est Morgane Cadignan. Et Morgane ne vous aime pas.
Bah si, Laurent Voulzy, vous aime pas, mais vous savez que c'est faux. Je vous ai déjà dit l'année dernière à quel point je vous aimais. En plus, là, je suis fatiguée, donc je vais être toute mielleuse. Daniel, bouge-toi les oreilles, ça va t'écœurer. Je vous l'ai déjà dit, je vous ai énormément écouté, moi, Laurent, sur la route des vacances. Et là, je ferme les yeux, j'entends votre voix, j'ai l'impression qu'on arrive au Gros du Roi. Je fais partie des Guadeloupéennes qui ont choisi Voulzy plutôt que Francky. Et franchement, j'ai zéro regret. Surtout que Francky Vincent dans une cathédrale. Bon, t'as quand même Jésus qui descend de la croix et qui se casse. Ouais, je suis pas venue me faire clouer là pour qu'un mec me demande si je veux son zizi. On est où là? T'as l'enfant de cœur qui suit derrière. Ouais, j'avoue, attends-moi. Je vous adore, Laurent. Je vous jure, vous m'inspirez. Regardez, je laisse boucler mes cheveux depuis l'année dernière. Parfois, je me fais des chemises à jabot avec du sopalin. Moi, dans ma bande originale, si un jour je viens en tant qu'invité, il y aura que des chansons que vous. Mais pour être invité ici, il faudrait que j'ai une actualité haute que de faire des chroniques ici. Sinon, la promo n'a pas de sens. Et vous, Morgane, en ce moment, bah, je suis là. Puis demain aussi. Ah bah merci. Tout de suite, les carnets de campagne. J'adore cette émission, mais j'ai vraiment l'impression d'être là tout le temps, les amis. Dans les toilettes du 6e étage, il y a un pot avec ma brosse à dents. D'ailleurs, Guillermo, Daniel, arrêtez de l'utiliser. Je sais pas lequel de vous deux, mais j'ai perdu une dent. Donc, la BO de ma vie, c'est en partie Laurent Voulzy. Quand on est en vacances, mes potes, ils se rendent pas compte tous les ans. Ils me jugent, ils se rendent pas compte de ce que ça veut dire pour moi d'écouter Belle Île en Mer à Marie-Galante. Mmh. L'inception du contexte, quoi. C'est comme écouter New York, New York à New York, Toulouse à Toulouse ou le plat pays sur mes seins. C'est rigolo, mais mon corps ne se développe qu'à l'arrière. Je pense donc que je n'ai pas d'autre choix que d'aller lire mes cathédrales dans une cathédrale. Et c'est vraiment parce que je suis fan, parce que c'est pas trop mon truc, moi, les églises, les cathédrales, il fait souvent froid. 3 fois sur 4, le bénitier est vide. Donc, je veux bien essayer de croire en Dieu et tout, mais je trouve que la religion nous demande beaucoup de sacrifices quand eux, ils arrivent même pas à remplir le catering, ni à donner des instructions claires quant à l'endroit où mettre la pièce quand tu veux allumer un cierge, s'il vous plaît. Et puis la messe, tu t'assois. Tu te lèves pour chanter, tu te rassois. Puis il faut se relever. Je suis venue sauver mon âme, en fait, pas faire des squats. Les seules fois de ma vie où je vais à la messe, c'est en Guadeloupe, justement, pour accompagner ma grand-mère, parce que là-bas, je préfère. Là-bas, c'est cool. Je suis avec mes tantes antillaises qui hurlent dans la nef qu'il faut aimer son prochain pour te dire 3 minutes après la sortie que la fille de la boulangère, c'est quand même une sacrée traînée et que la morue, elle est dans les acras, mais également dans le lit du beau-frère du voisin. Mais en tout cas, moi, je trouve chouette ce projet, Laurent, c'est vrai. Vous avez pris le créneau des cathédrales qui sont de beaux endroits. Les autres chanteurs, ils sont un peu dans la merde maintenant pour innover. Ils ont plus qu'à faire des concerts dans les trucs qui restent. Julien Clerc présente mes boucheries charcuteries. Chez Stock, c'est quand même moins classe avec Nagui qui va présenter des taratata à Rungis. On va pas s'en sortir. Bref, Laurent, s'il faut édifier des cathédrales pour vous voir souvent, donnez-moi un marteau. Moi, je te souffle du verre quand tu veux. Wow. Vous me donnez une date de concert. La Sagrada Familia, d'ici une semaine, ça peut être plié l'histoire.
Yeah. Et toi, Morgane, on te retrouve au Métropole Théâtre.
Et à Marie-Galante.
Du jeudi au samedi. Et le dimanche, Marie-Galante.
Ah, bon, je voulais... oui. Au-delà. Ah oui, vraiment.
De la Guadeloupe. Du moule.
Ah, le moule.
Attends, excusez-moi, j'ai raté la vanne, ouais. C'est quoi le moule?
Non, la ville s'appelle le moule.
Ça s'appelle sans blaguer.
Tu nous l'avais jamais dit?
Non.
Tu viens du moule?
Je suis moulienne, ouais.
Mais non.
Bah ouais.
T'es moulienne.
La moulienne. Ça va rester, mais
vous voulez acheter un terrain là-bas pour, pour soulager la famille? Private joke. On y va. Donc, Belle Île en Mer, pourquoi cet extrait?
Parce que j'en ai parlé.
Parce que tu en as parlé. Et parce qu'il se passe dans une cathédrale, justement. Ouais. Et je voulais parler de la musique aussi dans les cathédrales. Vous dites que le la sonne plus fort, que certaines notes, certains accords, certaines mélodies ne sont pas les mêmes si elles sont jouées dans une cathédrale et ailleurs.
Ah oui, le la c'est autre chose. Non, ça c'est ce qu'on appelle les harmoniques. Des fois on joue certaines notes qui résonnent beaucoup plus que d'autres. Mais ça, c'est valable pour toutes les salles de spectacle. Non, oui, les musiques... le lieu est tellement fort. Tous les théâtres maintenant dans lesquels on joue, je parle... Alors évidemment, il y a les théâtres... Le vieux théâtre à l'italienne magnifique, les Zéniths, etc. On peut penser qu'on peut tout jouer. La première fois que j'ai vu le groupe... comment ça merde, je trouve plus le nom.
Bah, je sais pas, donne-moi un indice.
Un groupe qui joue de la guitare, il y en a beaucoup.
Un groupe de ACDC. Ah. La première fois que j'ai vu ACDC, c'était à Munich, dans un théâtre... Un théâtre italien
antique.
Quoi, à l'italienne.
D'accord, à l'italienne.
C'était une espèce de loge et tout. Bon, voilà. On peut tout jouer dans tous ces endroits-là. Évidemment, les Zéniths, les salles de sport.
On a l'impression que ça ne sonne pas. Vous choisissez
pas dans les églises,
les chansons
pas.
En fonction du lieu.
Mais parce que le lieu est fort, quoi. Le lieu est fort. C'est des lieux qui ils sont tellement habités, tellement forts que on peut. Alors en plus, physiquement et dans l'invisible aussi. Mais dans ce qu'on peut calculer d'une façon concrète, il y a des résonances, 7 secondes de réverbération. Si on se met à jouer des... ça va être une bouillie, quoi.
Ça se décale.
Voilà. Donc, les arrangements qu'on a faits sur ce, il faut d'abord choisir le répertoire. Mmh. Et pas forcément en disant que c'est un répertoire, il n'y a pas de blasphème. On pourrait chanter ce qu'on veut. Mais ce qu'il y a, c'est
quand même, il y a une forme de respect, j'imagine.
Oui, mais c'est même pas le respect, c'est que le lieu vous empêche. J'ai pas envie de chanter Recollection dans la cathédrale de Chartres. Je le fais des fois dans un petit sketch que je fais au début avec ma guitare acoustique, mais ça dure 20 secondes. Mais on peut pas jouer n'importe quoi, je vais pas faire Bubble Stars, aucun intérêt. Par contre, quand on chante Jeanne, quand on chante Caché derrière, quand on chante Belle Île en mer, tout le monde chante, il y a quelque chose de magnifique, ça amplifie la chanson.
Mais est-ce que vous reprendriez la chanson d'Alain Souchon, et si en plus il y a personne dans une église?
Plusieurs personnes m'ont dit, mais pourquoi tu la chantes pas? On pourrait.
C'est de la provocation.
Elle n'est pas blasphématoire. Mais je la fais pas. Je préfère que j'aime bien. Alors ça, je laisse Alain la chanter.
Ça vous arrange?
Non. Ouais.
Vous hésitez même là autour de ce micro à employer les termes de spiritualité ou d'esprit ou de l'au-delà. Quels sont vos rapports avec mystique, religieux, en tout cas, avec l'au-delà. Qu'il y ait des esprits, qu'il y ait clairement des choses qui... un magnétisme qui vient du lieu, de la réflexion, c'est une chose. Vous avez dit au début, j'étais catholique, croyant, puis agnostique. Là, on a l'impression que vous êtes remis à douter, en tout cas, vous attendez cette illumination. Ouais. Vous êtes toujours agnostique?
Oui, mais j'attends, j'adorerais avoir... être complètement avoir une certitude, quoi. J'en ai pas, alors je cherche.
Mais vous avez été éduqué dans ce sens et pourtant il y a une rupture.
Oui, j'ai été éduqué comme tous les enfants du monde en général, 95%
ont la religion,
suivent la religion de leurs parents.
Bah, évidemment.
Au moins c'était catholique, c'est catholique. J'aurais été juif, j'aurais été donc j'ai suivi la religion de ma famille. Mais bon, quand j'étais petit, j'allais au catéchisme, et puis j'écoutais, puis c'était surtout un moyen de retrouver mes copains. J'avais 12 ans, voilà. Et après, j'ai commencé à me poser des questions petit à petit, vers 17-18 ans.
Mais l'émotion que vous ressentez en rentrant dans une cathédrale, est-ce la même si vous rentrez dans une mosquée?
Je suis rentré dans une mosquée... Alors, c'est assez simple. J'ai lu un des livres, des textes de soufis et tout ça qui sont super, vraiment extraordinaires aussi. Je suis influencé par ma culture, c'est-à-dire je suis plus sensible à certaines musiques. Et ben dans la religion catholique, il y a des chants qui ont été faits pour. J'adore les chants du Moyen Âge, j'adore. Mais en même temps, quand on entend des chants arabes et religieux, donc pour des prières musulmanes, ou quand on entend des bouddhistes qui font comme ça, ça prend
des vibrations, oui.
Ça prend tout ça prend. C'est pas n'importe quoi, mais ma culture va vers c'est l'art qui m'a guidé et qui me conduit à me trouver bien dans les lieux.
Alors, ce qui est étrange, c'est que vous voulez une espèce d'illumination, de preuve de votre croyance. Or, le principe de croire en quelque chose, c'est d'y croire sans forcément le voir. C'est pas du reportage, hein, la croyance.
Non. Alors, je suis un peu. Je cherche quand même à. Avoir des signes.
Ouais.
Alors,
des fois, mais c'est le principe, c'est chercher, sans trouver, mais c'est chercher.
Oui, d'accord. Ouais. Alors, déjà, l'autre jour, je discutais avec un abbé dans un monastère où on a chanté. Il m'a dit vous doutez, mais tout le monde doute. Il me dit déjà, vous tenez déjà quelque chose. Vous tenez les rênes. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas le cavalier encore, mais vous tenez les rênes. Il m'a dit ça. Donc. Où je crois que tout le monde doute. Mais j'ai discuté. Un jour, il y a un évêque et un prêtre qui viennent me voir pendant la répétition. On arrive dans l'église, ils arrivent vers moi. Donc le prêtre me dit, ça c'est l'évêque. Je lui dis bonjour, monseigneur. Et alors, il me dit, alors, bon, il me parle un peu de trucs, hein, vous êtes arrivé quand, vous avez fait bonne route et tout ça. Alors bon, alors donc, alors, et c'est pourquoi vous chantez dans les, c'est pour quelle raison vous chantez dans les cathédrales et les églises? Alors, je lui dis un peu des raisons, et je lui dis, mais vous savez, je vous dis tout de suite, je doute, hein. Et lui me répond, moi aussi. Moi aussi, je doute, c'est ça.
Ben oui.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est...
Leïla,
c'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est accepter de douter.
Peut-être accepter de douter, mais je cherche à voir... j'aimerais bien avoir voir quelque chose, quoi.
Après, ce qui est troublant aussi...
Mais des fois, dans des rêves, j'ai eu des impressions très fortes, parce que j'écris mes rêves, moi, depuis 40 ans, donc des fois, j'ai fait des rêves un peu...
C'est la digestion, ça.
Un peu mystique.
C'est possible.
Un peu mystique.
Oui, bien sûr. Ouais. Des rêves de... Il y a toutes sortes de rêves. Moi, je pense qu'il y a des rêves qui viennent de nous et des rêves qui viennent de l'extérieur. Ça, maintenant, je suis presque persuadé. Vraiment.
Vous avez fait des expériences ésotériques, vous avez essayé de faire tourner des tables, des guéridons.
Quand j'avais 18 ans, avec des copains, on a fait, je me rappelle, on était quatre, et on a fait une expérience de faire tourner des tables. Elle a tourné. Elle a vraiment bougé d'une façon incroyable. Et puis après, j'ai essayé de le refaire, ça n'a plus jamais marché. Bon, alors, donc, j'ai un doute là-dessus, mais bon, en tout cas, il faut... Bon, j'ai fait ça. Mais après, j'ai essayé des sorties extracorporelles, quoi. Ouais. Ça m'a fait... Je l'ai fait... Et ça m'a fait peur. Et c'est... Donc, j'ai arrêté. Mais je pense que tout le monde le fait... Il est possible, non, je suis pas sûr. Je pense que tout le monde le fait dans certains rêves qu'on fait. Il est possible qu'on sorte de soi-même. Ouais.
Mais ça veut dire aussi avoir une âme qui sortirait de son enveloppe corporelle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose après la mort. Ça veut dire que les esprits restent quoi qu'il arrive.
Ça pourrait dire ça. Je voudrais en être sûr. Ouais, ouais.
On ne sera jamais.
Non, mais je pense que. Mais je pense vraiment qu'il y a un. De plus en plus, qu'il y a vraiment un monde invisible autour de nous, ouais, vraiment vivant, avec une autre dimension, c'est presque sûr.
Et quand vous parlez de la construction de ces édifices, vous parlez aussi de leur alignement par rapport aux constellations. Et c'est pas complètement anodin, c'est très très lié aux astres aussi. Ouais.
Toutes les cathédrales, et les églises d'ailleurs, souvent, mais beaucoup, sont dirigées vers l'Est. Elles sont toutes à l'est. Alors au début, je pensais qu'elles se tournaient vers Jérusalem. Mais en fait, non, parce qu'il y a des églises qui sont de l'autre côté de Jérusalem et qui se tournent toujours à l'est. Donc en fait, toutes les églises se tournent à l'est. Elles sont tournées vers le soleil levant. Et par moments, elles ont une inclinaison un peu différente selon tel saint, etc.
Non, mais il y a des histoires aussi de entre certaines gravures ou vitraux qui sont éclairés à différents moments de la lumière.
Ah oui.
Et est-ce que la partie historique commune, d'ailleurs, avec les Juifs est mieux éclairée ou pas avec l'Évangile? Enfin, vous faites des allusions d'ailleurs là-dessus en disant, mais c'est quand même étrange que le Nouvel Évangile soit mieux éclairé que ce qui que le Testament qui est.
Parce que les chrétiens sont partis de la même religion que les Juifs, hein, donc Jésus était juif, donc et
il a été tué par des Juifs, c'est
il a été
vous
tué
dites que c'est aussi
il a été tué par
les
Romains,
ouais.
Officiellement, mais non il était, je sais, je veux pas rentrer dans ces polémiques là, ça
bah non, mais vous l'écrivez, vous le racontez,
je sais plus ce que je dis d'ailleurs,
non, ah bon
non mais si, il a été tué par les Romains, la crucifixion est un supplice romain. Mais bon, c'est le Sanhédrin qui l'a amené en disant, celui-là, il nous casse les pieds. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Puis après, Ponce Pilate, bon, il a fait exécuter, quoi. C'est une histoire un peu, je veux pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu trouble, quoi.
Non, mais c'est la question qu'on s'est posée hier avec François Cluzet, c'est pourquoi depuis tant de siècles il y a cette haine du peuple juif?
Ah ouais.
Et pourquoi certains intégristes catholiques cultivent d'ailleurs cette haine?
Alors ça, je saurais pas tellement répondre. Le fondement de la religion chrétienne, c'est saint Paul, hein, qui l'a fait. C'était un Romain, saint Paul. Puis sur le chemin de Damas, il a eu une illumination, et donc il est devenu un adepte de Jésus. Mais bon, c'est très très ancien. Hein. C'est un mystère. Hein. Vous parlez de l'antisémitisme, en fait. Hein.
Ouais.
c'est très mystérieux, quoi. Oui, apparemment, oui, on dit que les Juifs ont tué Jésus, c'est pour ça, mais je ne sais pas vraiment la raison. C'est très ancien, hein. Déjà, ils ont été chassés d'Égypte bien avant Jésus. Et alors, ce qui est intéressant, justement, il y a l'Ancien Testament dans les églises, c'est-à-dire, on voit tous les prophètes de l'Ancien Testament qui sont les prophètes juifs, quoi, enfin, de la religion des Hébreux, et ils sont là. Il y a même une église, je crois que c'est, je ne sais plus laquelle, où dans le vitrail, les apôtres sont sur les épaules, sont portés par les prophètes. Ça veut dire
et avec des inscriptions en hébreu.
Avec
vous le remarquez également dans votre livre.
Oui, c'est très très courant. Dans des églises, j'ai souvent vu le chandelier à sept branches. Enfin, c'est omniprésent.
Ce
quoi.
Côté œcuménique est rassurant d'ailleurs de se dire que dans les cathédrales, toutes les religions pourraient être présentes sans forcément s'entretuer mutuellement. Ouais. Chez Stock, vous l'avez compris, c'est passionnant. Et encore, on a évoqué le millième de ce qu'il y a comme information dans ce livre signé ou co-signé Laurent Voulzy, Laurent Geoffrin. On va continuer d'en parler, mais d'abord, voici Guillaume.
Voilà. Absolument. Ça va les amigos?
Oui. Tellement bien, tu peux pas savoir.
Oui, évidemment ça va bien Nagui, on s'en doute que ça va bien. Samedi, vous savez qu'on célébrait les 40 ans de l'abolition de la peine de mort en France?
Ouais,
c'est plutôt réjouissant. Je pense qu'ici, à part Leïla, on est tous contre, je pense. Ceci dit, elle n'était pas vraiment pour la peine de mort. Leïla, c'est juste qu'en tant que trésorière du fan club de Michel Sardou, je crois qu'il y a une espèce de devoir de réserve. On va savoir ce qu'elle pense au fond d'elle. Finalement, c'est assez difficile à déterminer. Du coup, je vais vous raconter une histoire assez dingue dont j'ai parlé deux, trois fois sur scène. Et c'est l'histoire du tout dernier condamné à mort de droit commun qu'il y a eu en Belgique. C'est une histoire vraiment belge, quoi. Plus belge que ça, je crois que tu fais un 3-2 sorti de nulle part à la 92e minute avec Nagui qui t'envoie « Tu l'as bien dans le cul, tu l'as bien dans le cul !» Et moi qui réponds « C'est vrai !» Nagui qui envoie « Non, dans le cul, dans le cul, dans le cul, dans le cul !» jusqu'à 1h30 du matin, à raison de 9 WhatsApp par minute. Chaque fois que la Belgique perd, l'action Bouygues prend 9%, je pense. J'ai regardé The Artist vendredi, j'étais étonné que Nagui arrive encore à tenir un micro tellement il devait avoir des callosités dans les doigts. À force de m'envoyer « Dans le cul, dans le cul, dans le cul !» Bref,
t'es un chien. Tu veux que je publie nos échanges?
Vas-y,
je vais le faire.
Vas-y. Allez, vous allez voir. C'est une très belle histoire franco-belge. Très belle histoire franco-belge. On est en 1918.
Débrouille-toi.
1918, Première Guerre mondiale, et la Belgique est en grande partie occupée par l'Allemagne. On connaît l'Allemagne, grosse culture du tourisme. À l'époque, chaque fois qu'il tombait amoureux d'un pays, il venait avec l'armée, tu vois, pour être sûr d'avoir les meilleures places autour de la piscine. Bah, jusqu'à 17h, c'était Happy Hour sur le Virgin Mojito, c'est dommage pour en profiter. Mais c'est vrai qu'il y a un soldat belge, il s'appelait Émile Verfaille, qui commet un crime abominable, il tue sa jeune maîtresse enceinte, un truc vraiment sordide. Bon, on parlait pas encore de féminicide à l'époque, mais bon, même en 1918, tuer une jeune femme enceinte, c'était pas considéré comme bon ambi, quoi. Tu vois, c'est pas que le président du tribunal fait Émile, ça suffit, arrête d'être sanguin comme ça, prenez un chewing-gum. Pourquoi, monsieur le président? Parce qu'il faut la caser à un moment. La blague du prenant, je suis comme Émile. Voilà, sinon tout le monde va se demander où elle est dans la chronique. Et donc on le condamne à mort, Émile, parce qu'il était une ordure et qu'il n'avait pas la ref. Voilà. Alors, en fait, ça fait 50 ans qu'on n'exécutait plus personne en Belgique dès à ce moment-là. Mais vu le contexte de guerre où la mort est un peu partout, on décide de pas l'épargner lui, tu vois, et de le guillotiner, quoi. Ce qui était plutôt logique. Problème, la guillotine belge se trouve à Bruges. Et Bruges est occupée par les Allemands. Donc on n'a plus accès à notre propre guillotine. Là, tu dis, bon, c'est ballot, mais il y a des autres moyens d'exécuter les gens. Tu le mets dans une baignoire avec un grippin, tu le mets sur le périph à vélo, tu lui fais regarder Belgique France avec son patron. Enfin, il y a moyen de tuer les gens d'ennui, tu vois, de lassitude. On n'est pas obligé de guillotiner, même si on est tous d'accord que la guillotine c'est efficace, quoi. C'est vrai que c'est rare que ta tête soit séparée de ton corps et qu'on fasse, eh ben, il a survécu, le con. Regarde ça, il tient encore 5 minutes en gainage. Allez, Emile, on décolle une jambe. Allez, jumping jack. Non, soit. La justice belge décide qu'il nous faut absolument une guillotine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande une guillotine à prêter. À la France. Ouais. Faut imaginer, on est en pleine guerre, histoire vraie, hein. On est en pleine guerre, il y a des millions de morts, il y a la boue, le froid, les enjeux sont considérables, la QG de Clémenceau, tring! Alors, monsieur Clémenceau, c'est la Belgique, dites, est-ce que vous, à tout hasard, et donc, la France prête sa guillotine. Problème numéro 2, nous on a un bourreau en Belgique, un bourreau officiel, mais ça fait 50 ans qu'on a plus tué personne, du coup notre bourreau, il a pas d'expérience, quoi, il est puceau, on sait pas s'il va gérer, tu vois, ça va aller pour la guillotine. Mais je crois, normalement, tu as question de, oh, ça va ton pied, sorry. Vraiment, donc on n'est pas sûr du bourreau. Qu'est-ce qu'on fait? QG de Clémenceau. Dring! Allô, monsieur Clémenceau, c'est encore la Belgique. Dites, vous allez rigoler. Et donc, Clémenceau prête aussi son bourreau. Bah, il dit, en effet, tant qu'à faire, prenez la formule, tu vois, pour 1 euro de plus. C'est con, c'est absurde de ne pas en profiter.
All inclusive.
Problème numéro 3, je vous crois, histoire vraie. On est en pleine guerre, il y a des bombardements partout, mais il faut acheminer la guillotine et le bourreau en train, quoi. Mais le monde, voilà, notamment via des parties qui étaient contrôlées par l'Allemagne. Sauf que l'Allemagne, à ce moment-là, comment vous dire, c'est pas qu'on était en bon terme, quoi, avec l'Allemagne. Ça, ils ont volé nos transats autour de la piscine, tu vois, on était un peu en. Tu vois, donc, et là, qu'est-ce qu'on fait? QG du chancelier allemand. Dring! On a dû demander à l'Allemagne si la guillotine pouvait passer. Ah, vous n'avez pas votre propre guillotine? Si, si, mais là, Bruges, et comment, c'est vous qui occupez Bruges, je suppose vous n'avez pas l'intention de partir tout de suite. Ah, bon. Voilà, donc on se disait, le train va devoir traverser les... Est-ce que ça vous embête pas que... Je parle moins du monde. Ah, c'est gentil, allez, bonne fin de guerre, et vous, fou aussi. Et vraiment.
Fou aussi.
Fou aussi.
C'est pas souvent que je fais des accents dans ma chronique. Hein. Profitez, hein. Ouais, profitez. Wow. Et donc finalement, on a réussi à acheminer la guillotine, le bourreau, et à exécuter Émile pour un très bel exemple de collaboration franco-belge. Et là, comme par hasard, j'ai pas reçu de message de Nagui. Allez, bonne émission.
Merci à vous. T'es un chien, parce que en plus, à la mi-temps, je t'envoie un message en disant, t'as vu, t'es en train de gagner.
Mais une fois que le match a été fini, qu'est-ce que vous m'avez envoyé, Nagui?
Ah, mais des vannes sur le seum, mais je reconnaissais qu'à 2-0, franchement, ouais, c'était bien barré.
J'ai même pas vu le match.
Bien joué. Et il me disait, ouais, je regarde pas le match.
Ouais, j'étais sur scène. Là,
et à la fin, ouais, à la fin, je dois avouer que je me suis lâché.
Tu vois, il finit par avouer.
Mais quel match de ouf! Vous n'êtes pas du tout branché football, Laurent, vous le dites?
Si, dans les grands matchs.
Ah bah, pas la Belgique.
Coupe d'Europe, du monde, tout ça.
France-Belgique. C'est un joli match.
France-Belgique, ouais. C'est un beau match.
C'est une bonne blague.
Très bon match. Très, très, très beau match. France-Espagne, très beau aussi. Et puis, on a gagné, donc on a le titre. On n'en parle pas. D'accord, ok, j'ai compris. Allez, musique avec Laurent Voulzy avant d'accueillir Olivier de Chalut, historien et ancien chef des guides de la cathédrale. On parlera de Notre-Dame, qui a aussi évidemment son chapitre dans votre livre, Laurent Voulzy, publié chez Stock en 77. Évidemment les Beatles, surtout McCartney.
Ouais, grande passion pour les Beatles, pour leur mélodie.
Oui.
Et à cette époque-là, on est en 77, vous composez la quasi-totalité de l'album Jamais Content d'Alain Souchon. Carrément méchant, jamais content. Où il y a Poulailler Song, il y a de la rumba dans l'air, Allô Maman Bobo. Et vous enregistrez cette chanson Rock Collection. Voilà.
J'ai l'impression.
C'est une chanson quasi autobiographique, en fait.
Un peu, oui. Au début, elle était... Oui, ça raconte un peu, mais un peu romancé, quoi. J'avais fait un texte de la chanson, j'avais fait la chanson en entier. Elle est restée une bonne année dans le tiroir, puis un jour, je l'ai fait écouter à Alain, qui est venu à la maison. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est sympa, mais ton texte, ça pourrait être mieux.
C'était l'histoire d'une jeune fille qui était poursuivie dans la rue, c'était pas ça, initialement?
Ah,
c'était Thriller, je crois, le titre.
Ah oui, alors... Bon, alors
on remonte.
Non. Alors, si on remonte plus haut, ouais. Un jour, j'étais... Je vais chez des copains, on était des copains d'école, des vieux copains, et on se retrouve dans une, au Perreux, chez un copain, Jean-Claude. Et avant de passer à table, je fais une chanson, et je griffonne des mots pour en plaisantant, je fais mon sketch pour un copain de l'école. Sur la musique de Rock Collection, que je trouve sur le ptana, sur la cour de récréation. Ensuite, un ou deux ans plus tard, je produisais avec une fille, avec Anne C. Sheridan, Anne Calvert, son nom maintenant de choriste, de chanteuse, et on fait une chanson qui s'appelle Thriller, bien avant Thriller.
Okay.
Et c'est l'histoire d'une fille poursuivie dans la rue, c'est elle qui chantait, une américaine qui chante super bien, et donc là, la chanson, elle avait sa forme, il y avait le gimmick, et ta-da-na-na-na-na-na-na-na in the street, chantait une fille poursuivie par un gars. La chanson, on l'enregistre pas, on la laisse de côté. Et encore un ou deux ans plus tard, un an plus tard, je reprends cette musique et je fais des paroles sur Rock Collection que je fais écouter à Alain bien plus tard.
Il faut rajouter
les paroles sont pas terribles.
Il faut rajouter l'anecdote de c'est une chanson qui vous a donné l'idée.
Il est possible
de dire, vous avez écouté une chanson en disant mais pourquoi là on n'entend pas les extraits.
Il est possible. Je me souviens plus. Au début, je me disais bon, ça m'est arrivé spontanément. Bien après, je me suis dit. J'étais en voiture, j'avais entendu la chanson Claude François cette année-là. Je me suis dit, c'est dingue qu'il n'ait pas mis de citation dedans. Et c'est peut-être ça qui m'a donné l'idée de faire une collection. Et donc, j'avais fait les paroles un peu autobiographiques. Alain les a trouvées pas terribles. Donc, un après-midi, je lui ai dit, bah, écoute, si elles sont pas terribles.
T'es si malin, vas-y.
Donc, bah, il les a faites, quoi. Donc, il y a une grande engueulade sur Saint-Malo. Enfin, pas une engueulade.
Oui.
Parce que je lui ai dit.
Saint-Brévin, c'est
oui,
ça.
Oui, Saint-Brévin. Mmh. J'ai dit, moi, j'allais pas en vacances à Saint-Malo, j'allais en vacances à Saint-Brévin. Oui, mais on va mettre Saint-Malo. Et non, on va mettre Saint-Brévin, parce que c'est ma vie. Eh ben, non, on va mettre Saint-Malo. Qui connaît Saint-Brévin? J'ai dit, attends, tu vas vexer tous les Brévinois. Tu connais pas Saint-Brévin? Si, il me dit, si, j'y suis allé en vacances. Ben, alors, on met Saint-Brévin. Eh ben, non, on met Saint-Malo. Bon, ça dure un moment, puis il a gagné, quoi.
Oh, la vie de couple. En 93, en 93, vous écoutiez Double,
too
Laurent.
Long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of her heart.
Qu'est-ce que vous aimez dans cette musique?
Non, mais elle est géniale.
Son tempo, la mélodie.
Non, j'aime tout, quoi. On peut pas analyser. J'adore cette chanson. Alors je l'ai écoutée quand elle est sortie, puis je me rappelle en 93, je sais pas, je me suis mis à la réécouter en boucle dans la voiture et tout. J'adore cette chanson. D'ailleurs, je l'avais enregistrée dans un album qui s'appelle La Septième Vague. J'avais refait une autre version un peu.
Ouais, où il y avait d'autres reprises sur.
Oui, c'était que des reprises. C'est un album que de reprises.
Ouais, c'était l'album de la cassette de pour partir en vacances.
Pour partir en vacances. Il y avait dessus, la chanson. Enfin, dernier baiser.
Et 93, vous décrochez deux victoires de la musique et vous vous décidez enfin à monter sur scène. Vous dites que vous n'aviez pas la trouille, mais la flemme.
Ouais, c'est-à-dire, je suis toujours bien dans ce que je fais.
Ouais.
J'aime être chez moi, composer. Donc, faire des maquettes me plaît. Composer ou pour moi ou pour Alain à l'époque. Et puis, enfin, toujours d'ailleurs. Et donc, la scène ne me manque pas. C'est-à-dire, voilà, on me disait, mais tu fais pas de scène, non. Puis finalement, quand j'en fais, ben.
Quand vous y avez goûté, tout d'un
quand
coup.
Quand j'y goûte, ouais, quand la fin de la tournée arrive, ça j'ai un peu le blues.
Notamment là, les vieilles charrues, je crois que c'est un gros souvenir pour vous,
énorme,
les vieilles charrues.
C'est la première fois que je faisais une scène, il y avait 70 000 personnes. Quand je suis arrivé derrière, j'ai eu peur. Je me rappelle quand on est arrivé. C'est énorme la scène des grandes. J'en avais jamais vu de si grande pour monter dessus, quoi. J'en ai vu en tant que spectateur. J'avais vu un concert notamment en Angleterre avec un paquet de stars incroyables et tout. Mais là, pour monter dessus, ça faisait peur. On dirait qu'on montait à l'échafaud, quoi. C'est énorme. Et donc, ça m'avait beaucoup impressionné. Même Manu Katché, il avait cassé ses baguettes tellement il jouait fort dans Recollection, je me rappelle. C'était impressionnant, je me rappelle. Et surtout, Belle-Île en mer. Quand j'ai chanté Belle-Île en mer, là, c'est la première fois, j'étais en Bretagne.
Que donc, la foule a chanté.
Oh, au moment où j'ai démarré, une espèce de rumeur dingue, les gens qui levaient le drapeau, le Gwenadu, le drapeau breton et tout ça. Et c'était, là, j'avais les larmes aux yeux. Quoi.
C'est le plus beau compliment que puisse faire un public à son chanteur, de chanter une chanson à sa place.
C'est toujours émouvant. Toujours émouvant. Ça m'émeut toujours. Quand les gens reprennent en cœur, c'est toujours.
Ils s'approprient la chanson.
Ah oui,
elle n'est plus à vous.
Ouais. Je pense que c'est très impressionnant, je pense, pour tous les chanteurs, quelle que soit la chanson, ouais, bien sûr.
En 2011, vous écoutiez cette nymphe des bois. Là, on est dans l'autre partie de votre carrière, notamment avec Caché Derrière, comme vous l'avez dit, avec Jeanne qui est arrivée ensuite, et l'importance des chants liturgiques grandissant.
Et vous sortez l'album Listen Love, ça faisait à peu près 10 ans que vous n'aviez pas enregistré d'album, et avec des chansons inédites en 2011. Et le point de départ, c'est un poème de Charles d'Orléans.
Ouais.
En regardant vers le pays de France, poème que Charles d'Orléans avait écrit au fin fond de son cachot.
Ouais.
Et vous avez gardé cette phrase-là pour ensuite partir
après,
dans la création.
Oui. J'ai gardé cette phrase-là en regardant vers le pays de France. C'est vraiment l'époque où j'étais tout le temps là, entre la France et l'Angleterre. Et donc, j'ai raconté un peu ma vie. Le fait d'ailleurs d'être en Angleterre fait que j'ai découvert l'Angleterre différemment. Au début, c'est quand j'allais en Angleterre, tous les gens étaient des Beatles. Et après, j'ai découvert l'Angleterre elle-même et j'ai commencé à aimer ce pays, mais de plus en plus la France aussi.
Alors, comment on peut aimer l'Angleterre et Jeanne d'Arc? Il y a un moment où il y a deux choses qui vont pas ensemble dans la phrase.
Bah, par exemple, dans la cathédrale de Winchester, il y a une statue de Jeanne d'Arc. Bon.
C'est Winchester, vous êtes sûr, ou Westminster?
Winchester.
Et vous
qui est dans le sud, qui est dans le sud de l'Angleterre. Ouais, Westminster, oui, mais il y a une statue de Jeanne d'Arc. Je l'ai prise en photo. J'ai dit, ils ont mis Jeanne d'Arc en photo là-bas, en statue dans la cathédrale.
C'est avec Jeanne d'Arc qu'il y a un problème de photo aussi dans le livre. Je sais plus. Vous voulez absolument faire une photo et finalement vous l'avez jamais faite, la photo de l'endroit où elle avait été dans la cathédrale. Vous racontez ça dans le livre. C'est pas vous qui avez écrit le livre?
Si.
Mais arrête.
Bah alors. Si si.
Pourquoi vous faites tête?
Mais parce que je me souviens pas de ce passage. Je me souviens d'être entré dans la cathédrale de Reims.
Où est l'endroit où était Jeanne d'Arc?
Oui, bien sûr.
Bah alors.
Mais non, c'est pas Jeanne d'Arc.
Mon Lolo, qu'est-ce qui se passe?
Oh mon Dieu.
Mais non, Nagui. Mais pourquoi?
Non. Non, c'est pas. Oui, c'est pas Jeanne d'Arc.
C'est qui?
C'est quand je suis rentré. je suis, comment on appelle ça, un allié d'un mouvement qui s'appelle Athée des Quarts Mondes.
Ouais.
C'est un mouvement qui lutte contre la misère et tout. Donc ils m'ont demandé de chanter la chanson Jésus que j'écris pour ces, pour sur la demande du père Brzezinski.
Jésus.
Bah dis donc.
L'entends-tu, ses fils.
Ça c'est une radio ça. Et là, alors ils m'ont demandé de venir chanter Jésus à la devant la porte nord de la cathédrale de Reims. Et parce qu'il posait une plaque pour le 17 octobre, il posait une plaque par terre pour la journée mondiale contre la misère.
D'accord.
Donc j'ai chanté avec un garçon qui jouait du clavier. Et avant ça, j'ai visité un peu la cathédrale. Et j'ai dit à une jeune fille qui me faisait visiter, je lui dis, où est-ce que les rois se faisaient sacrer? Alors elle me dit, c'était là.
Ah, c'est ça.
Alors je lui dis, bon, bah, je vais me mettre là, vous allez me prendre en photo. Alors je me mets là.
Vous prenez la pause.
Frimeur, je prends la... Je prends la pause.
Et elle fait tomber l'appareil photo.
Et là, c'était mon appareil photo. Elle fait tomber l'appareil.
Le téléphone.
Ouais, elle fait tomber le téléphone. Alors, et on m'appelle à ce moment-là pour me dire, il faut aller chanter. Donc je remets mon appareil en trois.
En pièces.
Le couvercle, et je remets tout, et là, et hop, je pars. Et le soir, les gens de la Télé Quarts Mondes m'invitent à dîner. Et je veux faire une photo de tout le monde. La photo, il n'y avait pas, mon appareil ne marchait plus.
Pas de carte SIM.
La carte SIM avait disparu. Donc j'ai appelé le recteur de la cathédrale, on a appelé le recteur de la cathédrale qui n'était pas content, je lui ai dit, je vais retourner voir si je trouve la carte SIM.
Vous ne pouvez pas appeler.
Il n'était pas content, on m'avait prévenu qu'il n'était pas commode. Mais donc, je l'avais rencontré un peu avant. Et donc finalement on a trouvé la carte SIM. Et je me suis dit, il fallait pas que j'aille faire le guignol devant l'endroit où les rois étaient sacrés. Ouais.
Vous prenez ça encore une fois comme un signe. Autre, entre guillemets, signe ou miracle, vous trouvez immédiatement la carte SIM sans avoir à trop la chercher.
Non, la fille est arrivée dans la nuit avec sa lampe de poche, le recteur était avec nous. Il y avait un peu d'éclairage à l'extérieur et elle arrive, elle allume sa lampe de poche pile sur la carte SIM. Mais je me suis dit, bon, il ne faut pas faire le guignol, l'endroit où...
et d'ailleurs, vous avez voulu aussi dormir dans une cathédrale, je crois que c'était à Reims, ou pas là où
non,
vous...
déjà à Reims, j'ai demandé au recteur, j'aimerais venir passer la nuit dans
c'est
la cathédrale.
Ça. On n'a pu passer que 2 heures, ce qui est déjà
Il me regarde, en plus c'était un type, on m'avait prévenu, il était un peu ours. Il bougonne un peu, je lui dis non, mais il me dit... Et puis après il me dit, toute la nuit, non, mais 2 heures peut-être, pourquoi pas. Bon, si vous voulez. Bon, puis après, il me dit, vous savez ce que je fais, moi, des fois, le soir, la nuit, je viens et je reste dans la cathédrale tout seul. Mais j'en ai fait une autre comme ça, à Saint-Quentin, la nuit. C'est très impressionnant.
Mes cathédrales, Laurent Voulzy, il y chante et on va en parler de cette tournée qui reprend, mais surtout il les écrit, il les décrit, ces cathédrales chez Stock. Et nous allons en parler notamment de Notre-Dame avec vous, Olivier de Chalut, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro. Alors ce que j'ai découvert en lisant le livre de Laurent Voulzy, c'est que malheureusement, j'ai envie de dire, il n'y a pas que Notre-Dame qui a brûlé, il n'y a pas que la flèche de Notre-Dame qui s'est effondrée, on a l'impression que c'est... Le cycle de la vie des cathédrales, de subir des destructions, des reconstructions, et même des évolutions architecturales à travers les siècles.
Ah oui, tout à fait. C'est quelque chose finalement pas de commun, mais c'est quelque chose qui se répète tout au long de l'histoire depuis le Moyen-Âge. Et d'ailleurs, c'est des sources d'informations importantes pour les historiens parce que les incendies, en général, sont consignés dans les chroniques historiques. Et donc, ça nous donne des éléments pour pouvoir analyser les édifices. En fait, ça nous donne des repères chronologiques.
Avec toujours cette même question et réflexion, faut-il construire à l'identique, si on en est capable, ou faut-il construire façon Viollet-le-Duc en rajoutant, en modernisant. Alors, Viollet-le-Duc qui sort pas grandi de votre livre, si je peux me permettre, Laurent. Vous y passez.
Moi, je l'aime bien.
Saint-Denis.
Comment? Oui, on dit qu'il a fait un peu, il en faisait un peu à sa tête. Ouais. Mais s'il n'avait pas fait Carcassonne, il n'y aurait pas de Carcassonne.
On est d'accord. S'il n'avait pas fait Carcassonne, il n'y aurait pas Carcassonne.
Ouais. Merci. Non, mais je veux dire, elle était complètement dans un état. Elle était lamentable.
Le gars, il va jusqu'à se mettre au milieu des vitraux et des statues.
Oui, on le dit un peu avec.
Un peu un but de sa personne.
Un petit peu, ouais. Un peu, ouais.
La question donc s'est posée sur Notre-Dame, et vous êtes historien et spécialiste reconnu de Notre-Dame. C'est acté, c'est définitif, Notre-Dame sera reconstruite à l'identique, il est hors de question de moderniser quoi que ce soit.
Bah, C'est l'orientation qui est prise, oui. Et c'est amusant parce que quand on parle de restituer à l'identique ou selon ce qu'a fait Viollet-le-Duc, mais à l'identique, c'est refaire ce qu'a fait Viollet-le-Duc. Donc
non, quand je dis refaire à la façon de Viollet-le-Duc, c'est qu'un nouvel architecte dessine une nouvelle flèche et pas comme Viollet-le-Duc avait lui-même modernisé Notre-Dame de Paris.
En fait, la question, c'est quel est le sens de l'objet qu'on a perdu? Pourquoi est-ce que c'était un objet patrimonial? C'est une question qu'on a eu du mal à poser dans les médias. Et finalement, si on restitue l'objet à l'identique, est-ce que ce sens il est conservé? Et s'il est conservé, ben à ce moment-là, pourquoi pas le conserver en fait? Parce que c'est le seul endroit où on peut le conserver. Faire de l'architecture contemporaine, on a d'autres endroits pour le faire.
Est-ce que maintenant on va prendre beaucoup plus de précautions en termes d'incendie, de sécurité, en plus de la restauration? Est-ce que les travaux de sécurisation vont être plus pointus qu'avant?
Alors je suis pas dans le secret des dieux, mais j'aurais tendance à dire que déjà l'objectif de la protection incendie telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est de protéger les gens qui sont dans un édifice. Et de ce point de vue-là, ce qui s'est passé le 15 avril, ça a tout à fait fonctionné, il n'y a pas de victimes. Ensuite, quelle approche on peut avoir pour protéger les biens, le patrimoine, face à l'incendie? Mais ça, c'est un chantier qui doit s'ouvrir, qui a un problème réglementaire, qui a un problème de la profession du bâtiment dans son ensemble. Et je pense qu'on aura des prémices de quelque chose à Notre-Dame. Après, c'est un point de départ, je pense.
La question est aussi de protéger l'édifice de l'acte humain ou de négligence ou d'accident ou de courjure, enfin tout ce qui peut provoquer un incendie. On ne sait toujours pas d'ailleurs ce qui a été le point de départ de l'incendie.
Non, c'est un accident.
Les travaux.
C'est en fait dans l'histoire, il y a trois cas d'incendie. Il y a la foudre, trois causes. La foudre, les bombardements, comme à Reims, vous en parlez, et puis les travaux. Et donc voilà,
c'est dans cette troisième option. Dans le livre de Laurent Voulzy, il met le doigt sur les sciences ou le savoir alchimique présent sur les portes, les colonnes. Est-ce que dans votre regard, vous, de Notre-Dame, vous y voyez des codes, des messages qui ont pu être inscrits par des compagnons ou en tout cas dans la transmission de toutes ces croyances alchimiques, ouais. Ouais, des mystères, de la pierre philosophale et autres connaissances ancestrales.
Et j'aurais tendance à dire que de toute façon, il y a une forme d'intime et de spiritualité dans l'édifice. Après, on met la limite un peu là où on veut et on interprète un certain nombre de symboles un peu comme on peut. On n'a pas d'écrit du Moyen-Âge, vous le dites d'ailleurs à propos de Notre-Dame de Paris. On ne sait pas quelles sont les motivations qui conduisent à ci ou à ça. Beaucoup de choses ont été restaurées. Beaucoup d'éléments qui sont analysés sous cet angle-là sont des éléments qui datent du 19e siècle. Donc il y a probablement une sensibilité à ces questions au 19e siècle déjà. Ensuite, pour la partie médiévale, là, j'aurais tendance à rester prudent parce que j'en sais rien. Voilà.
D'accord. Et également dans le livre de Laurent Voulzy, on découvre que ceux qui sont des contributeurs aux travaux, des donateurs généreux, se retrouvent dans des vitraux. Alors peut-être le visage un peu.
C'est le visage du Christ, du bébé, dans les bras de Marie. Voilà. Ouais.
Est-ce que dans la reconstruction de Notre-Dame, on sait déjà où sera Bernard Arnault?
Bonne question. Non, je ne crois pas qu'on ait des éléments figuratifs à refaire. Donc
est-ce que la Vierge Marie aura un sac LVMH?
Non, en tout cas, il lui sera certainement offert. Maintenant, est-ce qu'il restera en place? Je ne sais pas vous dire.
Notre-Dame, histoire d'une renaissance, avec les photos de Patrick Zachmann aux éditions Bayard. Ça sortira là, courant octobre?
La semaine prochaine.
Très bien. Merci Olivier de Chalut d'être venu à ce micro. Héros du jour, Daniel Morin.
Alors, aujourd'hui, mon héros aurait pu être le fils de Superman. Oui, dès septembre, Superman Junior va faire son coming out en BD. Il est bisexuel. Quelqu'un qui a tout compris au plaisir. Un héros normal, quoi. Alors, Junior aurait pu être mon héros du jour, mais il ne l'est pas, au profit d'un homme que j'aime d'amour tendre depuis des années, et ce, malgré tout ce qu'il trimballe de sordide humainement et de purulent physiologiquement. Oui, mon héros du jour est Guillermo Guillou. Pourquoi lui? Eh ben, parce qu'il a enfin compris. Il a fait acte de rédemption, voire de contrition, suite à la performance de la Belgique en phase finale de la Ligue des Nations. 4e sur 4, Guillermo lâche l'affaire. En même temps, il y a de quoi.
Bruno Courtois aussi lâche l'affaire.
S'il vous plaît.
Bruno, ouais. Il est au bout du seum.
S'il vous plaît, aussi. Par pitié, por favor. Undo stress. Que fait la Belgique numéro 1 au classement du foot mondial? Qu'est-ce qu'elle fait là, la Belgique? Alors que clairement, le foot,
C'est pas son truc. Alors oui, les bons esprits, le Belge, oui, les Belges y mettent de l'ambiance, ils ont des visages rigolos, mais sportivement, leur comportement est étrange. On a l'impression qu'ils n'ont pas compris les règles. Les gars, ils marquent des buts, puis à un moment, ils s'arrêtent de marquer, presque de jouer, comme s'ils se disaient eh, « c'est bon, on a marqué, maintenant c'est aux autres, hein, on va pas faire tout le spectacle ». Du coup, Guillermo est arrivé chez moi dimanche soir, tremblant, en larmes, il m'a supplié, il était là « Daniel, grand maître de la blague fine exigeante, excuse-moi, mais je suis au bout de ma misérable vie de supporter, je te demande officiellement l'asile politico-footballistique, je renonce au diable rouge, je veux devenir fan des bleus, fan d'une équipe, fan d'un peuple, fan d'un pays, fan d'une nation pour qui la règle du hors-jeu est clairement une chimère. » L'équipe de France est bénie, elle est sacrée, elle est intouchable, je veux en croquer de ce bonheur d'impunité. Il paraît que c'est signé avec la FIFA pour la prochaine Coupe du Monde, c'est le Qatar, les Français pourront marquer de la main. Pour les joueurs de Didier Deschamps, pour eux seulement, le bras et la main seront considérés comme un prolongement de la jambe. Accepte-moi Daniel, je renonce à toute ma belgitude. Dans ma cave, j'ai enlevé les posters de mes héros, Boudouin Ier, Eddy Merckx, Marc Dutroux. Je les ai remplacés par des affiches de Landru, Patrick Balkany et Pierre Rabhi. Je suis prêt pour mener une vie baroque, la vie baroque d'un Français où l'arnaque et la truande ne sont pas des défauts, mais font partie de l'art de vivre national. Alors moi, touché par tant de clairvoyance, je l'ai accueilli dans mon logis. Je lui ai dit, toi Guillermo, fils naturel d'un tacos et d'une gaufre, sois le bienvenu chez moi. On a pleuré, bien sûr, à chaudes larmes, et pour se consoler, on a regardé sur YouTube une compilation des plus beaux buts hors jeu du football français. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon héros du jour, c'est Guillermo.
Merci, Daniel. Bonjour Tanguy,
bonjour.
De quoi vas-tu parler aujourd'hui ?
Je vais parler de Squid Game, la série sud-coréenne du moment. Un poil violente, il y a plus de sang là-dedans que dans 60 ans de films de vampires qui seraient mordus entre eux dans une fête un peu intime, mais elle crée la polémique.
La deuxième partie de la bande originale sur France Inter.
C'est ici que ça se passe. C'est merci vrai. Laetitia Gaillier. Elle reviendra toute l'après-midi pour vous informer. À 13h, le journal de... C'est la bande originale avec Lila Kadoboudali, avec Morgane Cadignan, Guillermo Diable Rouge de Guise, Tanguy Bastureau, Daniel
Morand,
et Laurent Bouzy.
Bim bam boum.
Où nous parlons, où nous parlons également des cathédrales, mes cathédrales, chez Stock Laurent Bouzy, cathédrale que vous allez revisiter. Ça commence là, dans deux jours, vous serez à l'église Notre-Dame au Sable d'Olonne. Ensuite, église Saint-Benoît, Aisne pendant deux jours. Lys et Lannoy, deux jours également à l'église Saint-Luc. Saint-Omer à la cathédrale Notre-Dame. À Toul, le cathédrale Saint-Étienne. Verdun, cathédrale Notre-Dame, deux jours encore. Enfin, et puis la basilique Saint-Rémy à Reims, deux jours aussi. Cette tournée reprend, vous allez la vivre au-delà du fait que la tournée avait été interrompue par le virus. Après ce livre, après tout le poids que vous portez maintenant et les explications qu'on vous a données des différentes cathédrales, vous y allez pas comme un chanteur qui va chanter dans une cathédrale. Vous y allez comme un visiteur privilégié. Un
connaisseur.
Oui. Ah ouais, non.
Ouais, un connaisseur. Ouais,
c'est bon. Non. J'y vais toujours.
Eh ben si.
Eh ben non. Non, j'y vais toujours. Simplement là, on a écrit là-dessus, notamment avec Laurent Geoffrin, évidemment. Et donc j'ai rencontré des guides, etc., qui m'ont parlé de choses dont on a besoin quand on visite, parce qu'on peut pas tout connaître, évidemment, loin de là. Mais j'y vais toujours avec d'une façon naturelle, quoi. Non. Je sais pas. Mais il y a pas grand-chose qui change.
Sauf que maintenant, vous ne pouvez plus. Enfin, quand vous observez, revenons sur ce dont Leïla parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ces forces telluriques de dire qu'il y a des cathédrales qui sont placées presque systématiquement, soit sur un cours d'eau, soit sur un puits. D'ailleurs, certains puits peuvent avoir aidé à la mort de différents. Martyrs il y a quelques cadavres.
Ouais. Oui, il peut y en avoir. Ouais.
Ouais. Et donc vous expliquez qu'il y a ces forces telluriques, qu'il y a aussi ce savoir alchimique qui résonne aussi, les francs-maçons, le savoir-faire, le compagnonnage, enfin tout ça. Il y a beaucoup de choses extrêmement aussi bien d'ailleurs pragmatiques qu'ésotériques qui viennent se concentrer sur un même endroit.
Oui, Non, mais bon, alors ça, oui, c'est sûr. Donc, non, mais...
oui, j'ai tout mis dans une phrase.
Il y a beaucoup de choses
à résumer.
Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai découvertes, des choses que j'ai découvertes, que j'ai découvert ou découvertes.
Non, découvertes.
Que j'ai découvertes. Ouais. Et alors, par exemple, il y a des colonnes comme ça, puis en haut, il y a des chapiteaux. En haut de la colonne, il y a des... Mais en fait, elles ont souvent une signification symbolique.
Comme des codes, comme des messages.
Oui. On ne fait pas attention, ça. On regarde. Puis simplement, non, mais c'est vraiment ce que j'aime, c'est quand on rentre, on a une impression toujours la même. Je regarde pas plus un peu en détail, mais moins. Ça change pas grand chose le fait que j'ai fait le livre. C'est juste des sens à moi. Je décris des sensations que j'éprouve. Mais j'ai appris des tas de choses quand même.
Sensation de quoi? De lumière, de froid, d'écho, ouais. De vibrations, d'ondes. Ouais.
Ben non, mais on sent la lumière est différente quand on rentre dans une église, mais les cathédrales, la lumière est différente, le son est différent, il y a une odeur, il y a quelque chose qui fait que les gens en général parlent un peu moins fort, quoi, quand ils rentrent. Mmh. Alors bon, il y a le côté respect, on est dans l'église, on parle moins fort, mais quand même, il y a un côté, on est, comme je disais, l'endroit est très très fort, quoi, donc. On dirait que c'est vraiment des machines, c'est des machines d'énergie, quoi. Qui vous portent de la terre vers le ciel.
Des vaisseaux spatiaux, d'ailleurs. Vous parlez de vaisseaux spatiaux.
Moi, je parle de vaisseaux spatiaux. Mmh.
Vous vous signez quand vous rentrez dans une cathédrale?
Oui, quand je rentre, si je prends l'eau bénite, oui, enfin, j'en prends moins maintenant.
Avec
les pandémies, ils ont vidé les bénitiers. Ah oui. Non, mais
parce que j'ai une éducation catholique aussi, comme vous, sans qu'on choisisse finalement quand on est enfant, puis devenu agnostique de la même manière. Mais je ne peux pas m'empêcher de me signer quand je rentre dans un lieu saint.
Quand je rentre, non, mais mon réflexe, c'est pas forcément de me signer. Par contre, il y a un moment, je vais toujours vers une chapelle, et là, il y a des bougies, et j'aime bien me mettre une bougie,
en
allumer une, faire une prière, tout le temps. C'est ça, oui. Mais me signer quand je rentre dans la cathédrale, pas forcément. Mais...
Et quand vous priez, vous adressez à Dieu ou plutôt à des esprits de votre famille, à vos grands-parents?
Non, quand je suis dans la cathédrale, je me mets devant une statue... Ça peut être Saint Joseph, Sainte Thérèse de Lisieux, la Sainte Vierge.
Et vous lui parlez?
Voilà. Ben, je fais une prière, oui, comme ça. Et puis, mais chez moi, je prie pour tout le monde. Et les prières que je fais chez moi, sont plus longues et c'est des prières inventées. J'ai composé. Alors, il y a les prières traditionnelles plus des compositions personnelles.
Mais cathédrale, c'est absolument passionnant. Et encore une fois, que l'on croit ou pas, parce que je tiens à le préciser, on peut avoir le sentiment comme ça qu'un livre qui s'appelle Mes cathédrales ne s'adresse qu'aux croyants ou qu'aux catholiques. Non, ça va plus loin que ça. Ah ouais. Et puis c'est un vrai volet de notre histoire.
Souvent autour des cathédrales, il y a des cimetières mérovingiens en dessous. Mmh. En dessous, il y a des sites paléo-chrétiens, gallo-romains, parfois celtes, tout le temps. C'est vraiment très très commun. Quoi.
Ouais,
c'est pas la cathédrale qui est sacrée, c'est l'endroit où elle est qui est sacrée.
Qui est souvent d'ailleurs sur un ancien lieu de culte romain.
Oui, romain, mais parfois celtes aussi même.
Mes cathédrales, c'est chez Stock et Tanguy Passureau, c'est chez France Inter.
Hier matin, je regardais l'heure des pros sur CNews parce que j'aime voir des gens s'énerver. Ça me permet d'évacuer ma propre rage. Parfois, pareil, j'attrape une mamie, je la fous sur un vélib, je la pousse sur la place de l'Étoile. Elle bloque tout le trafic, les gens hurlent. Moi, ça me fait du bien. Surtout qu'à chaque fois, tout le monde accuse Anne Hidalgo, je suis mort de rire. Et hier, face à Pascal Praud, il y avait Jacques Séguéla, un monsieur orange qui ressemble à une carotte. D'ailleurs, il va jamais à Center Park de peur de tomber sur des lapins. Alors, parmi les sujets du jour, hier, on parlait d'une vidéo d'un lycéen faisant chuter sa prof en forçant la porte de la classe. À mon époque, jamais on aurait fait ça parce qu'on avait peur des profs. Et aussi parce que pour filmer, il fallait un énorme caméscope avec des cassettes. Il n'y avait jamais assez de lumière. Enfin, moi, j'étais en Bretagne sur 4 ans de film en tout. À un moment, sur 7 secondes, on voit ma mère tenir une tourte parce qu'elle avait eu l'idée d'allumer dans la cuisine. Quoi. Mais c'est tout. Et là, Jacques Séguéla s'écrit « Quand on voit cette série coréenne monstrueuse, spectacle préféré des jeunes, une négation de l'humanité et des valeurs, fatalement, on en arrive là. » C'est le fameux débat, vous savez, autour de l'influence des images sur les jeunes. Moi, par exemple, à 17 ans, c'est vrai que j'ai vu L'Ours de Jean-Jacques Hano. Bon, pendant 3 semaines, j'ai bouffé que du miel. Je grognais.
jamais, je gobais des hormones pour avoir plus de poils. Donc les images ont un poids parfois. Et là, ces gars-là parlent en fait de Squid Game, la série du moment. C'est la plus regardée de l'histoire de Netflix. Alors qu'en 2018, Netflix avait quand même lancé Plan Cœur. Alors Squid Game, pour vous décrire le truc, 456 Coréens endettés jusqu'au menton, donc plus que jusqu'au cou, participent à un jeu mortel pour gagner 45,6 milliards de won. Vous savez combien ça fait en euros?
Non.
Bah non, je savais bien qu'il fallait que je chronique sur BFM Business. Ça fait 33 millions d'euros, bande de décroissants. Alors ils jouent à des jeux d'enfants, comme 1, 2, 3 soleil, sauf que ceux qui sont surpris à bouger se prennent une balle en pleine tête. Hein, petit à petit, il y a de moins en moins de gens. Olivier Faure a porté plainte contre Netflix en disant que c'était un plagiat de l'histoire récente du Parti Socialiste. Donc oui, Squid Game, c'est violent. Il y a plus de sang que dans une réunion d'hémophiles qui serait tombée sur un pitbull stressé. La série est d'ailleurs interdite au moins de 16 ans. Mais moi qui l'ai vue, je pense qu'en dessous de 78 ans, c'est trop jeune pour la regarder. Et encore, je la recommanderais plutôt aux personnes décédées, parce que forcément, elles sont moins émotives. Alors, Squid Game, c'est un phénomène. Numéro 1 sur Netflix dans 90 pays. L'actrice coréenne Oh Weyong-jung. Alors, je sais pas si je prononce bien. Et je m'en fous. Hein, parce que je suis sûr qu'il n'y a pas un Coréen qui sait dire Tanguy Pasturo. Donc, ça va. Hein, l'ouverture aux autres, ça va dans les deux sens. D'accord? Oh Weyong-jung a pris en 3 semaines quand même 14 millions d'abonnés sur Instagram. Par conséquent, je pense qu'avec Daniel Morin, si on veut faire décoller nos réseaux sociaux, moi Instagram, lui le 3615 Dany pour des nuits velues, il faut minimum qu'on joue à chat en s'étranglant. Bref, Squid Game, c'est violent. Moi, ça m'a rien fait parce que je suis habitué à la violence. Il y a 2 semaines, j'ai vu la tête de Ségolène Royal quand on lui a dit qu'elle avait fait 2% des voix aux élections sénatoriales. Mais pour des enfants, c'est pas adapté. Ça les rend tarés, nos petits tous. Exemple en Belgique, un directeur d'école dit avoir chopé des primaires en train de se frapper après avoir joué à 1, 2, 3 soleils. Donc il a fait son enquête, a demandé aux gosses, alors les loulous, pourquoi donc vous êtes pas gentils? Et l'un d'entre eux a dû répondre, va rôtir en enfer, sale descendant de Jules Ferry, on joue à Squid Game en bavant. D'autres écoles belges ont constaté la même chose. Et en France, le ministère travaille sur un message d'alerte à destination des directeurs d'académie. Donc Blanquer, qui avait à peine vu la saison 1 de Alf, se doit se taper les 3/4 de Netflix pour comprendre ce qui demain va rendre les élèves à moitié cons. Alors après, moi si en primaire j'avais vu Squid Game, je pense que j'aurais eu un équilibre psychologique assez précaire. J'ai juste eu le droit de regarder Le Village dans les nuages et je suis déjà pas net. Hein, donc si vous êtes parents, moi je vous le dis, hein, laisser des CE2 mater Squid Game n'est pas l'idée du siècle. Ou alors il s'agit d'une enfance accélérée. Hein, vous voulez qu'à 8 ans et demi, ils aient l'âge mental d'un gars de 34. Donc allez-y à fond. Après Squid Game, vous les lancez sur un petit porno, puis la finale de MMA et vous les finissez sur un débat Macron-Poutou mené par un journaliste qui a la tourette. Mais bien sûr que non, Squid Game n'est pas pour les enfants. Ni The Walking Dead, à la rigueur, passez l'heure sur YouTube, Le Pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy. Et encore s'ils sont pas allergiques au pollen, sinon ça me paraît un peu hard pour eux. Hier donc, j'écoutais Jacques Séguéla, ce baron du fric roi qui toute sa vie a fait vendre des produits inutiles, cet idiot qui pense que la réussite c'est avoir une Rolex, alors que non, c'est avoir une montre Patek Philippe. Bon, j'écoutais Séguéla, ce personnage vain, expliquer que Squid Game n'avait pas de valeur. Alors que justement dans la série, l'argent que lui vénère gâche tout. La vie des gens qui n'en ont pas et la vie des gens qui auront été obligés de tuer pour en avoir. C'est pas une boucherie, c'est pas juste une boucherie, il y a un message derrière. Alors que l'assis, si vous n'aimiez pas trop les collets, bon, il n'y avait pas grand-chose à tirer des 591 épisodes. Je pense qu'il n'y a que Michel Drucker qui aujourd'hui se repasse la scie en murmurant dans un soupir de nostalgie. Ah, ça, c'était un chien à son pépère. Squid Game, c'est la négation du monde bâti par Séguéla. D'où sa réaction épidermique. Alors par contre, si on a des enfants, je le répète, Squid Game, ça se regarde tard le soir, quand ils sont couchés et qu'ils dorment auréolés de l'innocence que vous aurez bien voulu préserver pour eux. Et vraiment, sinon, faites-leur écouter Le Pouvoir des fleurs.
Merci.
À Curse, au Grand Cursal à Besançon, le 21 octobre.
Oui. Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses, changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums.
La tournée de Laurent Voulzy reprend à partir de ce 14 octobre dans deux dodos, Laurent, au Sable d'Olonne et jusqu'à fin novembre pour aller jusqu'à Cambrai. Et puis le livre s'appelle Mes cathédrales chez Stock, d'autres événements culturels.
Oui. Leïla. On va parler de Joachim Gauvin, qui est un contrebassiste de jazz. Il s'est fait piquer son instrument en rentrant de concert dans un train qui allait à la gare Montparnasse. Ah. Comment est-ce qu'il l'a retrouvé ?
Par les réseaux sociaux.
Peut-être en mettant une petite annonce. Il l'a retrouvé sur Le Bon Coin.
Absolument.
Voilà. Ça arrive souvent. Alors, moi, j'ai retrouvé un vélo comme ça que je m'étais fait voler aussi.
C'est vrai?
Oui, oui.
Alors, en fait, le jazzman avait pris peut-être une mauvaise habitude, c'est de laisser sa contrebasse dans l'espace vélo
dans la rue,
du train. dans l'espace vélo du train, parce que c'est compliqué de stocker ces instruments. Et en fait, quelques jours plus tard, un de ses copains a vu la contrebasse en vente sur le site de revente en ligne Le Bon Coin. Le voleur...
C'est un site de recel, en fait.
Non mais, attendez, c'est que l'instrument vaut 11 000 euros et le voleur l'a proposé à c'est Lou 75, le pseudo du voleur, on va le donner. Il le proposait pour 1 500 euros. Donc il a mal fait l'expertise, parce que pour le coup, il n'avait pas gagné beaucoup d'argent sur cette histoire-là.
C'est un truc volé quand même.
Donc finalement, quand on se fait piquer un truc, allons voir sur Le Bon Coin, surtout quand c'est un instrument un peu particulier.
Mais est-ce que le voleur s'est fait arrêter?
Alors ça, la suite, je ne le sais pas.
Moi, je veux une morale, moi.
Oui, parce qu'il y en a du coup qui tendent un guet-apens à leur voleur et qui arrivent à 6 et qui récupèrent l'objet en question. L'objet. Ça arrive,
c'est
ça souvent.
C'est ce que tu as fait pour ton vélo.
Non, moi, je suis...
Est-ce que, Laurent, vous avez des instruments rares? Vous avez des instruments rares,
non,
précieux?
J'ai des instruments... Fétiches? J'ai 2-3 guitares que j'aime bien, mais rares... Ils sont pas forcément rares.
Et pourquoi vous les aimez bien? Parce que c'est des guitares sur lesquelles vous avez composé un certain nombre de morceaux ou...
Oui, parce que oui, c'est des guitares. Oui, ma première. Quand j'ai commencé, j'avais une petite guitare que m'avait offert ma mère. Enfin, quand j'ai appris la guitare, puis mon rêve c'était d'avoir une Gibson. Mm. Donc je l'ai toujours, mais elle m'a été offerte par ma maison de disques. À l'époque, j'avais pas assez de sous pour l'acheter, et donc Maurice Grosjean, qui était mon directeur artistique, me dit, bon, quel est ton rêve de guitare? Je fais Gibson. Bref, on va chez un grossiste, je choisis ma guitare, je rentre chez moi, c'est la guitare dont je rêvais depuis des années, je la pose sur un fauteuil, et je vais boire un verre, je joue avec, et puis je vais boire un verre, puis en discutant avec quelqu'un, je m'assois et je casse la guitare le jour où on me l'a offerte. Ouais. Elle a été réparée par la suite.
Ouais, hein. Ça se répare sans que le son soit...
Mais là, c'était une horreur. J'en rêvais depuis des années. Je me suis assis dessus.
Moralité, il faut pas boire.
Ouais. Et pourtant, c'était...
Pas s'asseoir.
Plus, c'était de l'eau, je bois plus d'eau maintenant.
Autre question, Clint Eastwood vient de gagner 6 millions de dollars, mais comment a-t-il fait? Et c'est pas grâce au cinéma.
En vendant sur Le Bon Coin une contrebasse.
Il a pas vendu son catalogue à une plateforme, non, un truc comme ça?
Non.
Non.
C'est 6 millions, un cachet pour un film ?
6 millions de dollars. Non.
Un petit truc à l'euro million.
C'est pas du tout lié au cinéma.
Ah, c'est pas lié au cinéma.
C'est pas une loterie.
Il a vendu un terrain en Guadeloupe.
Non.
Au moule.
C'est pas une loterie.
C'est pas une loterie.
Pour avoir une telle somme.
La voiture, Gran Torino.
Non.
Non.
C'est pas lié au cinéma. Une baraque ?
Des photos de lui ?
Non.
C'est pas lié. Une musique.
C'est lié à sa célébrité d'une certaine façon.
C'est pas
des poils de sourcils.
Non, pas un autographe, pas de poils.
Un repas avec lui.
C'est pas une vente aux enchères
sans
flingue, gagne un lot avec
non,
flingue.
Non, vous ne trouverez pas.
Ah bon.
Il a gagné un procès.
Ah.
Il avait déposé plainte en juillet 2020 contre un article publié dans un magazine où on associait en fait son image à la vente de produits du CBD, en fait, du cannabidiol. Il a porté plainte, il a gagné 6 millions de dollars. Voilà. Est-ce que vous faites très attention à votre image,
Laurent ?
Est-ce que vous
prenez de la drogue ?
Ouais.
Non, j'ai arrêté tout ça. Non,
le CBD, c'est pas de la drogue. Mais...
Est-ce que vous faites très attention à votre image, justement, à comment l'image est utilisée, comment vous êtes mis en valeur ou pas ? Comment... Est-ce que ça, c'est aussi un souci d'artiste ?
Je fais pas très attention, mais à mon image, oui, j'essaie d'être le moins moche possible. Donc, avant de faire une émission de télé, je me coiffe, je mets mon gilet, je mets des trucs. Bon, enfin, mais elle a jamais été utilisée,
ouais.
Voilà.
Contre donc, votre gré, oui.
Mais si ça devait arriver, je suis comme tout le monde.
Vous avez déjà fait de la pub?
Non, jamais, non. Moi, dans mon personnage, moi-même en personne.
Moi, mon personnage, il a pété un câble. On est d'accord que Laurent Voulzy.
Je suis désolé, vous avez vu,
il s'est fait tout. Perdu Laurent Voulzy.
Non, il a jamais fait de pub.
Il a jamais fait de pub.
Il a jamais fait de pub.
Il a jamais fait pour du jambon.
Il a jamais fait de pub.
Non.
Non.
Bah, écoutez.
Non, mais par contre, j'ai fait des musiques pour la pub, c'est ça que je voulais dire. Quand j'ai dit personnage, ce qui m'a échappé.
D'accord.
Moi, en personne, je n'ai jamais figuré. Dans une pub, moi, non, je m'en.
Et quelle musique, quel jingle vous avez créé que l'on connaît?
Ah oui. Non, il y en a pas, c'est pas énorme. Hein. Ils ont utilisé, par exemple, récemment, Le Soleil Donne pour une pub pour aller dans les îles de la Guadeloupe.
C'est pas pareil, ça. Récupérer une musique pour faire la pub, c'est pas pareil. Richard Gottener a fait beaucoup de jingles.
Lui, il en a fait.
Ouais.
Moi, j'en ai fait, mais je me souviens plus. Euromarché, il y a très longtemps. Je sais plus. Mais après, ils ont surtout utilisé des chansons, le pouvoir des fleurs.
Ça, c'est autre chose, ça. D'accord. Voilà. Hier, on sait où était Laurent Voulzy.
Et moi aussi.
Bah ouais, il était avec toi, Laurent Voulzy. Passez vos jours et vos nuits ensemble. The Artist, ça s'est passé sur Culture Box, le canal 14, la masterclass que j'ai vue, ou qui a fini en larmes d'ailleurs.
Ah oui.
Elle était dingue cette masterclass, c'était super.
Mais c'est pas moi qui ai pleuré pour une fois, c'est Cynthia, une des candidates qui était tellement émue de vous voir.
Et il était spectateur.
Elle était peut-être fatiguée.
Non,
elle était très très émue, je crois qu'un de ses rêves c'était de chanter avec vous.
Clairement.
Et rêve réalisé comme ça.
Cadeau.
Ouais. Et vous étiez ému vous aussi de l'avoir.
Bien sûr. C'est émouvant de l'avoir.
On a parlé ensemble, Laurent, hier, de composition, de mélodie. Et on a commencé cette masterclass avec un Laurent Voulzy qui me dit, mais je peux pas expliquer, je sais pas comment ça marche, d'où ça vient. Alors, on a remonté un petit peu le temps, on a été se promener dans votre vie. Et on s'est intéressé notamment à une des premières mélodies que vous avez pu composer. Vous étiez tout jeune, vous aviez quoi? Allez, 14 ans?
Donc, j'avais composé une chanson qui faisait ça. C'est ça.
Monsieur Laurent Voulzy.
Et alors, donc il y avait une mélodie.
Ouais.
Et ça racontait l'histoire d'un copain qui était amoureux d'une fille. Et donc, j'avais 14 ans. Voilà. Et en fait, l'air que j'avais trouvé, je me suis aperçu peu de temps après que j'avais entièrement pompé sur une chanson d'Elvis. Donc,
Ah, les mélodies, comment ça vient, d'où ça vient, c'est pas toujours simple. Mais vous racontez aussi dans cette masterclass, alors il y a plein de choses à raconter, mais il faudra aller voir en replay cette masterclass, surtout cette idée intéressante de la mélodie du jour.
Des fois, le matin, je me lève, ou je prends mon petit déjeuner, ou je marche dans la rue, et il y a une mélodie qui vient dans ma tête. Je vous dis tout de suite, elles sont toujours nulles. Mais je les note, parce que je trouve, j'appelle ça la mélodie du jour, j'en ai des centaines.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est comme si maintenant, je suis tout seul dans mon coin, puis je fais... C'est la mélodie du jour. On ne sait pas plus que ça. Mais ça veut dire que ça vient tout seul.
Ouais. Voilà, ça vient tout seul.
The Artist, la masterclass à voir. Hein, c'est sur France.tv, à revoir en tout cas celle de Laurent Voulzy. Là, ce sont que quelques extraits, mais c'est absolument intéressant, passionnant et enrichissant. Et dans l'idée de la transmission. D'ailleurs, vous m'avez dit, j'aurais bien aimé, moi, gamin, pouvoir assister à une masterclass d'un artiste aussi.
Bien sûr.
C'est la première fois que vous faites ça ?
C'est la première fois que je le fais. Donc moi, je n'arrive pas à prendre le recul, contrairement à ce que vous pensez quand je dis « il ». J'arrive pas. Oh, j'ai pris un melon, c'est vrai. Non, mais j'arrive pas, moi, à avoir le recul de me dire que...
Qu'est-ce que je peux apporter ?
Oui, qu'est-ce que je peux apporter ? Puis, voilà. Mais je sais... Comme j'aurais aimé, moi, quand j'ai débuté, faire participer comme spectateur et masterclass
qu'ils ont aimé.
Avec Serge Gainsbourg ou Brassens. Le moindre mot m'aurait intéressé, quoi.
Bah, vous avez vu hier l'émotion que ça leur procurait d'avoir une masterclass, Laurent Voulzy.
Ouais.
C'est ce soir, à 20h, tu reçois...
Benabar, et on va parler de la danse des canards.
Et The Artist, c'est la finale de ce jeu qui permettra à un artiste d'être diffusé sur France Inter, d'avoir sa tournée parrainée par France Inter et France 2, une captation de son concert, une diffusion sur France 2, et un taratata qui lui sera entièrement consacré. Il reste... Oui, c'est pas donné à tout le monde.
Hein.
Il reste 6 artistes, et ça sera en direct à 22h40 sur France 2, vendredi soir. Des excuses, Daniel Morin.
Désolé pour notre invité Laurent Voulzy, qui aime le recueillement, le mysticisme, les esprits, et aspire à la révélation et s'est retrouvé ce matin dans la bande originale. Alors clairement, l'esprit était en RTT. Désolé Laurent. Désolé pour les producteurs de Laurent Voulzy, la maison de disques de Laurent Voulzy, tout ce monde qui souhaitait garder un peu de mystère quant au prochain titre qui va sortir de leur artiste. Eh ben, vous savez, c'est un showman Laurent, il n'a pas pu s'empêcher d'en chanter le meilleur, la meilleure partie en direct dans l'émission. Ah là là, c'est prometteur, on a tellement hâte. Désolé enfin pour Nagui, dont la confiance, la bienveillance, la gentillesse ont été bafouées, tambourinées, souillées par Guillermo Guise, l'infâme diable rouge Guillermo qui a révélé deux soi-disant échanges SMS. Salaud, tu veux que je mette sur les réseaux les photos que tu m'envoies avec ta... ou celle où tu... avec un... Voilà. Alors calme-toi et va jouer au foot. Non, pardon, va faire une pétanque.
Non, vous travaillez sur une pièce musicale avec Franck Ferrand autour de Jeanne d'Arc, c'est ça votre projet ?
Oui, oui.
Très bien.
C'est le projet
du... Vous reviendrez en parler à ce micro, vous êtes toujours le bienvenu, Laurent Voulzy, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Cathédrale, c'est chez Stock.